Église en Mayenne.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Église en Mayenne. Aujourd'hui, vous allez entendre des voix que vous connaissez déjà parce qu'on a réinvité des amis qui sont déjà venus à plusieurs reprises. On parle aujourd'hui des pèlerinages et je dis bonjour à Maurice Bigot.
Bonjour Claudia.
Qui est directeur du service de pèlerinage de diocèse. Bonjour.
Bonjour.
Et frère Omer de la Côtellerie que vous connaissez aussi et qui est prêtre accompagnateur des pèlerinages. Bonjour à tous les deux.
Bonjour chers auditeurs.
On va parler des pèlerinages qui sont prévus, mais avant ça, racontez-nous ce qui s'est passé dans le passé. Pèlerinages qui ont été faits, est-ce qu'il y avait des inscriptions? Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce que vous avez vécu?
Alors, il est vrai qu'avec le Covid, on s'est retrouvé un petit peu désemparé, si je peux dire. Et on craignait un petit peu la reprise des pèlerinages, la reprise de nos activités. Et finalement, ça s'est très bien passé, puisque nos pèlerinages n'ont peut-être pas vraiment fait le plein, mais pour la plupart, c'était vraiment bien. Nous sommes allés au mois de mai à Rome et à Assise, avec un groupe de 40 personnes, ce qui est très bien. Nous sommes allés à Notre-Dame-du-Lot, La Salette, au mois de septembre. Nous sommes allés en Grèce et nous sommes allés en Jordanie, Terre Sainte. Voilà, et chaque fois des groupes très intéressants. On sent que les gens ont envie de partir, ont été privés pendant le Covid et ont été cloîtrés, si on peut dire. Donc là, maintenant, c'est bien.
C'est intéressant parce qu'on en parlait avec des personnes qui organisent des groupes de prière et autres. Et partout, on avait plutôt entendu que les gens, après le Covid, c'était un peu replié sur eux, que c'était difficile de redémarrer, qu'il y avait des manques de motivation. Donc, pour les pèlerinages, vous n'avez pas constaté ça?
Oui, je le constate dans d'autres associations, quel que soit le type d'association, où beaucoup ont ressenti une certaine défection des participants, des licenciés parce que plus envie de repartir. C'est dur de faire repartir une machine comme ça. Et pour notre part, on a vécu à peu près la même chose. Et puis là, maintenant, ça y est, c'est bien reparti. On a de beaux projets en route.
Je lisais un sondage là sur l'après-Covid concernant pour toute une question et qu'est-ce que le bonheur pour le français aujourd'hui? Et après le Covid, il y a 4 Français sur 5 qui disent qu'ils sont heureux. Et dans les 4 sur 5, en fait, il y a 16% qui disent que tout ce qui a trait à la quête intérieure, spiritualité, quête intérieure, il y en a 16% en France qui disent que c'est ce qui les rend heureux. Donc je pense qu'il y a vraiment un réel atout. En ce qui concerne la démarche de faire un pèlerinage, donc quand on est sur un pèlerinage, il faut savoir qu'il y a certaines qui profitent parce qu'il y a une structure qui organise, mais au fond, il y a une quête du spirituel.
Le Covid nous a fait réfléchir beaucoup sur notre vie, sur le sens de la vie, et un pèlerinage, ça peut aller dans ce sens-là, ça peut Exactement. Nous aider à approfondir, à vivre ces questions, à prendre du temps pour méditer là-dessus, pour poser des questions et peut-être trouver des réponses, des grâces. Est-ce que dans les pèlerinages que vous avez faits, que vous venez de citer, il y en avait où on voyait, là, il y avait plus d'intérêt que pour d'autres? Est-ce qu'il y a des pèlerinages qui sont très appréciés?
Un pèlerinage qui est vraiment très apprécié, c'est le pèlerinage qu'on fait en Jordanie-Terre Sainte.
Oui.
Où là, comme au mois d'octobre l'année dernière, nous sommes allés dans le désert du Wadi Rum et on a eu un temps pour se recueillir, pour marcher seul. Je dis bien seul dans le désert. Et ça, c'est, je dirais, c'est un grand moment devant cette immensité qu'est le désert et se retrouver tout seul, marcher, pouvoir s'asseoir, s'agenouiller, faire une prière. Ce sont de grands moments. Et là, je crois que l'unanimité des pèlerins, c'est vraiment l'un des grands moments que l'on puisse vivre. Et ça a été vraiment très, très, très apprécié. Et merci, frère Omer, de nous l'avoir proposé, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, qu'il faut refaire.
En fait, nous étions 39, je crois, en tout. Et les pèlerins, ils s'est laissé faire. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés, ils ne savaient pas qu'on allait avoir ce temps. Voilà. Donc, on a pris les véhicules et puis on s'est retiré. On allait dans les profondeurs, au désert, et tout seul. Et on a commencé par un chant, tout simplement. Et on a pris un passage de l'Écriture. Notamment le passage qui concerne la promesse que Dieu fait à Abraham, où il dit que ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable, que les étoiles dans le ciel. Et chacun, pendant un quart d'heure, 20 minutes, tout seul, cœur à cœur, avec le Seigneur, avec soi-même, avec la nature pour ceux qui... Voilà. Et ça a été vraiment apprécié.
Et c'est peut-être ça aussi qui fait un peu la différence entre un voyage et un pèlerinage. Dans ce pèlerinage, il y a des moments conviviaux, parce que ça fait partie et c'est important aussi, où on prie, mais on fait peut-être aussi un peu la fête, on chante, on se détend.
Mais
des moments où aussi on peut se retirer. Donc on n'est pas obligé de passer 100% du temps en groupe, toujours en échange. Il y a aussi des moments où on a l'occasion d'être... dans un cœur à cœur, de méditer, de savourer le silence.
Mais il n'est pas rare, avant de partir en pèlerinage, qu'un ou deux pèlerins m'appellent pour me demander « Est-ce que nous sommes obligés d'assister à toutes les célébrations ?» Pas rare. Chaque fois, je réponds, les célébrations sont proposées. Maintenant, à chacun de faire selon sa conscience, de faire suivant ce qu'il ressent, ce qu'il a besoin. Et la plupart du temps, ces pèlerins assistent et participent, je dis bien participent à toutes les célébrations, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on part comme ça, quand on part en pèlerinage, on arrive avec nos valises, il y a un groupe de pèlerins qu'on ne connaît pas, bien sûr, et après, il y a une magie qui s'opère.
Ce qui fait la force d'un pèlerinage, c'est que dès le point de départ, il y a une bonne cohésion. C'est-à-dire on fait partie d'un même groupe, d'une même famille. On sait qu'on peut compter sur le frère ou la sœur qui est à côté. Voilà, puisqu'il y a une délicatesse qui se met en place, où on apprend à se connaître aussi. Voilà, puisque pendant un pèlerinage, à un moment ou à un autre, forcément, on va livrer une partie de nous-mêmes. Donc, l'autre entre dans notre intimité, nous entrons dans l'intimité, pas totalement, mais une partie de l'intimité de l'autre. Ce qui fait que, on ne vit pas simplement l'un à côté de l'autre, mais on vit une communion, en fait. Et ça donne une force dans les pèlerinages. Et aussi, effectivement, ce qui est proposé. Puisqu'il y a une telle diversité que celui qui est loin de la foi, il se retrouve. Celui qui est à fond dans sa foi va se retrouver. Celui qui dit, moi je viens simplement parce que j'ai entendu dire que vous allez visiter Petra, vous allez visiter je ne sais pas quoi. Donc moi je viens pour ça. Mais en fait, quand il vient, il visite. Mais au-delà de la visite, il vit une expérience humaine, une expérience spirituelle. Et ça, c'est porteur.
Ça, c'est intéressant parce que c'était ma prochaine question. Vous dites, on arrive, on ne connaît pas le groupe. Et j'allais demander, est-ce qu'il y a un pèlerin type ? Apparemment, c'est des gens très différents qui
Absolument.
Participent.
Déjà parce qu'ils arrivent d'horizons différents. Horizons géographiques, déjà. Bon, on a la Mayenne, bien sûr, qui est en large majorité. Mais il y a aussi des gens qui arrivent. Bon, j'ai fait un pèlerinage avec des gens qui venaient de Strasbourg, de Toulouse, du nord de la France, qui venaient des gens qui, bien évidemment, ne se connaissaient pas. Nous avons des personnes qui, d'horizon, de catégorie sociale complètement différente. Des personnes qui ont vécu des événements, si je puis dire, malheureux dans leur vie. Hein, dernièrement, il y avait dans la même chambre, puisqu'on a le principe de partage de chambre, dans la même chambre, deux veuves, deux personnes qui étaient veuves depuis peu de temps, et qui donc ont partagé leur souffrance. Et toutes les deux ont vécu, et on dit ce qu'elles vivent et comment elles s'en sortent. Et ça c'est...
Donc la Providence joue aussi
dans la
constitution des groupes.
Beaucoup. Mmh. Et les amitiés qui se créent perdurent. Mmh. Les personnes se voient après.
Est-ce que vous avez une ou deux anecdotes, des choses qui vous ont marqué
Alors, moi, je pense que ce qui m'a beaucoup marqué, qui a été aussi un moment important. Il y a eu plusieurs moments pendant le pèlerinage en Jordanie, Terre Sainte, qui s'est déroulé dans le mois d'octobre dernier. Lorsque nous étions encore en Jordanie, nous sommes arrivés au mont Nebo. Et quand on lit la parole de Dieu habituellement, on dit voilà, dans le désert, le peuple d'Israël succombait sur la morsure du serpent, et puis Dieu a demandé à Moïse d'ériger un serpent. Voilà, donc on arrive au mont Nebo, et puis le guide musulman, mais qui connaît la Bible, voire peut-être plus que c'est un chrétien, voilà, nous dit, mais du choix qui est raconté dans la Bible Moïse, mais c'est là, la tombe de Moïse, on dit, on ne sait pas où l'a mis, mais c'est quelque part là, ça peut être là, juste là, ça peut être à côté, ça peut être plus loin. Et là, le regard de tous les pèlerins, en fait, on a complètement changé. C'est-à-dire, même ceux qui étaient venus en mode touriste, je viens pour observer, pour prendre les photos, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est réel. Parce qu'on le vit dans notre chair, et puis on se dit, mais il y a des milliers de personnes qui sont passées ici en pèlerinage, et nous faisons partie de ces milliers de personnes qui sont venues sur les traces d'une histoire sainte. C'est impressionnant. Et ça nous, on se sent petit. Et en même temps, on se sent vraiment sous la faveur de Dieu, aimé de Dieu.
Ta parole ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
Vous avez dit que c'est un pèlerinage qui a beaucoup de succès, et avec ça, on peut peut-être passer à ce qui est prévu maintenant pour le futur, parce que vous allez le proposer très prochainement, encore une fois, Terre Sainte, Jordanie.
Voilà, alors, en ce qui concerne le programme pour l'année 2023. Bien sûr, nous irons à Lourdes du 17 au 22 avril. Les inscriptions sont ouvertes. Elles sont en ligne sur notre site internet. Nous irons en Jordanie Terre Sainte. Alors là, je le mets un petit peu entre parenthèses parce que les inscriptions normalement sont pratiquement closes. On parle du 14 au 24 mars. Donc s'il y en a qui étaient très intéressés, il faudrait faire plus que vite, parce que là, on n'a vraiment plus beaucoup de temps pour se retourner. Nous proposons aussi de marcher dans les pas de Sainte Thérèse de Lisieux, que tout le monde connaît bien, et nous serons à Lisieux du 30 septembre au 2 octobre. Alors, nous ne serons pas trois jours à Lisieux, on commencera par s'arrêter à Alençon, là où a vécu la famille de Thérèse. Nous irons bien sûr à Lisieux au moment des fêtes thérésiennes, et ensuite nous irons à Caen, là où est la sœur de Thérèse. Et voilà, ça sera le programme des trois jours. On fera peut-être une incursion jusqu'à Bayeux, et puis on rentrera. Voilà, c'est un programme sur trois jours, du 30 septembre au 2 octobre.
Quand j'entends ça, je pense aussi aux frais. Combien est-ce que je dois compter pour faire un pèlerinage? Parce que c'est quand même aujourd'hui un aspect qui compte aussi.
Il faut savoir qu'il y a une base qui est la même pour tout le monde, qui est le coût du voyage. Mais il y a aussi, quand on va en Jordanie par exemple, ou lorsque l'on va à Rome, il y a ce qu'on appelle le préacheminement. On a un car qui nous emmène à l'aéroport. Et ce car, en fonction du remplissage, coûte plus ou moins cher à chaque personne. C'est ce qui peut faire la différence. Et nous, on a des tarifs. Plus on est nombreux, moins c'est cher, forcément.
Et ça peut aller de combien à combien, en gros?
Tout dépend. Je vois un pèlerinage en Jordanie, Terre Sainte, coûte plus de 2000 euros.
Oui. Et c'est combien de temps?
10 jours.
10 jours.
On est 10 jours partis.
Tout inclus.
Alors, les prix que nous donnons sont des prix toujours tout inclus. C'est-à-dire que vous avez le transport vers l'aéroport et le retour en Mayenne, les vols, les hôtels, les repas, les pourboires pour les guides, il faut le savoir aussi, parce que les guides, surtout en Jordanie et en Terre Sainte, ça fait partie de leur revenu. Donc, tout ça, c'est compris dedans. Les dons que nous faisons aux paroisses, là où nous célébrons la messe, sont compris dedans.
D'accord.
À l'extrême limite, les personnes qui viennent peuvent venir sans un centime dans leur poche.
Pour chaque pèlerinage, il y a des guides. À Lisieux, par exemple, il y aura aussi des guides.
On aura notre guide. Voilà. Nous avons des guides, comme disait Frère Robert tout de suite. En Jordanie, on a un guide musulman.
C'est toujours le même, parce que vous dites...
Oui, au Philippe, personnellement, là je vais le revoir au mois de mars, ce sera la troisième fois que je le vois.
D'accord.
Mais c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il est musulman, comme disait Frère Omer, je pense qu'il connaît mieux la Bible que certains chrétiens, je pense.
S'il y a des personnes qui ne peuvent pas se payer un pèlerinage, est-ce qu'on peut faire des dons ou est-ce qu'on peut faire un cadeau?
Si, par exemple... des enfants veulent faire un cadeau à leurs parents pour qu'ils puissent aller à Lourdes. Ils nous téléphonent en nous disant « Voilà, je veux faire un cadeau. On veut offrir un voyage à Lourdes, un pèlerinage à Lourdes à nos parents. » Ils nous appellent et voilà.
Donc on peut faire une surprise.
On peut faire une surprise. Un pèlerin est venu un jour dans notre bureau pour nous dire « Voilà, je voudrais faire un cadeau à mon épouse pour son anniversaire. Je voudrais lui offrir un pèlerinage en Jordanie, Terre Sainte. » Mais surtout, vous ne dites rien, comme il dit. Surtout, vous ne dites rien. Alors, il n'y a pas de danger, on ne connaissait pas son épouse. Mais voilà comment ça peut se faire.
C'est une bonne idée.
C'est une bonne idée, voilà.
Et on peut aussi faire des dons.
Tout à fait.
Lui permettre de partir.
Tout à fait. Et ces dons, dans la mesure où la personne est imposable... ces dons peuvent apporter une réduction d'impôt. Voilà.
Et comment vous contactez Maurice Bigot?
Comment me contacter? Sur le site internet, par téléphone. Ah, vous appelez la maison d'Ossenzen, vous demandez le service des pèlerinages et les personnes, les charmantes personnes qui vous accueillent au téléphone, vous transféreront.
D'accord.
Sans aucun problème.
Bien.
Le site internet, c'est le site internet du diocèse de Laval.
Et Frère Omer, vous n'êtes pas présent à tous les pèlerinages?
Je ne suis pas présent à tous les pèlerinages. Je suis spécialement présent quand il s'agit du pèlerinage à Lourdes, puisque ma mission, c'est d'être accompagnateur des pèlerinages à Lourdes. Mais je fais partie aussi du service. Et je les accompagne. Voilà, quand il y a des projets, notamment sur la partie spirituelle. Là, le prochain pèlerinage en Terre Sainte, Jordanie Terre Sainte, c'est un autre prêtre du diocèse qui va accompagner ce pèlerinage, mais je vais préparer toute la partie célébration pour ce prêtre. Donc, ce qui est d'actualité actuellement, c'est que à chaque pèlerinage, on essaie d'avoir un prêtre différent. Voilà, pour que non seulement ça permet aux prêtres du diocèse de Laval de pouvoir vivre un pèlerinage pour eux aussi, voilà, et de pouvoir aussi quelque part se reposer pour eux aussi. Et je pense que c'est ça porte une vie saine pour le prêtre. Donc c'est un bien qu'on propose aussi au niveau des prêtres du diocèse autant que peut. Voilà.
Maurice Bigot et frère Omer, vous êtes tous les deux des habitués maintenant pour préparer des pèlerinages. Est-ce que vous pouvez nous dire, quand vous préparez ça, qu'est-ce que vous voulez offrir aux personnes qui se joignent à vous, qui se confient à vous d'une certaine façon ?
Qu'ils reçoivent ce que je reçois à chaque fois, des grâces. C'est une grâce de pouvoir faire ça. J'ai vraiment beaucoup de chance de faire des pèlerinages, d'organiser des pèlerinages. Et nous souhaitons que les personnes qui partent avec nous oublient leur quotidien, qu'ils confient leurs soucis, qu'ils aillent aussi dans des endroits pour dire merci, parce que on a un peu trop tendance aussi à dire ben, je vais aller à Lourdes pour parce que j'ai un souci, un problème de santé, des problèmes de travail. Bon, mais faut aussi aller pour rendre grâce, pour dire merci pour ce qui m'est arrivé. Voilà. Et ça c'est très important dans nos pèlerinages. Les personnes, faut pas qu'elles oublient ça. Puis on veut leur offrir aussi un moment de détente. Et comme on dit couramment, ils se mettent les pieds sous la table. Et puis voilà, ils ont qu'à se laisser guider.
Du repos.
Voilà. Alors, ce n'est pas forcément reposant.
Oui, mais du repos peut-être dans l'esprit, de se détendre intérieurement,
exactement.
Je veux dire.
Voilà.
Lâcher prise.
Voilà. Alors, je n'ai pas dit tous les pèlerinages. On a commencé, mais on n'a pas fini. Alors, parce que c'est important.
D'accord.
Nous irons fin septembre, début octobre, à Tamanrasset. Nous irons en Algérie. Mmh. Alors, c'est un petit peu nouveau. Nous irons d'abord, on atterrira à Alger. On ira à Tibérine. Maintenant, si je peux dire, tout le monde connaît, malheureusement. Tout le monde connaît Tibérine. Et on reviendra à Alger et on reprendra l'avion pour aller à Tamanrasset, là où a vécu Charles de Foucauld. Et ça sera fin septembre, début octobre. Et dans la foulée, quelques jours après, nous reprendrons l'avion pour aller à Fatima. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas proposé Fatima. Et donc, nous serons à Fatima normalement du 8 au 15 octobre prochain. Alors, de Fatima, on ira bien sûr, on ira à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui n'est pas très loin. Fatima, Salamanque, Avila, etc., etc. Voilà.
Ça, c'est tout ?
C'est déjà beaucoup.
C'est beaucoup.
Alors, on a un petit truc qu'on étudie, qu'on n'a pas encore véritablement mis au point, c'est de passer 3 jours sur Lyon. Parce qu'à Lyon, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Et donc, on ira vraisemblablement sur Lyon, peut-être avant les vacances 2023, les vacances d'été.
Donc le programme se renouvelle, les choses bougent, il y a les classiques qu'on garde, mais on ajoute des nouvelles découvertes.
Bien sûr.
Et vous dites que pour les groupes, c'est pareil. Il y a les habitués, mais il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent et vous en êtes très content.
Et dans nos projets, mais là c'est plus à l'horizon dans 2 ans par exemple, nous proposerons la Turquie dans les pas de Saint-Paul, le deuxième volet des pas de Saint-Paul. On a fait le premier volet l'année dernière en Grèce. Et donc, on va proposer la Turquie. Et si les conditions géopolitiques nous le permettent, on irait en Arménie. Mais là, on tient compte aussi des événements internationaux qui nous autorisent à partir ou pas.
Bien. Donc, on a vu qu'il y a des belles choses qui sont prévues, chers auditeurs. Notre émission touche à sa fin. On a beaucoup parlé des pèlerinages. Je remercie Maurice Bigot, directeur du service du pèlerinage du diocèse, et frère Omer de la Cotellerie, prêtre accompagnateur, de nous avoir permis de nous échanger avec vous. Maintenant, on espère qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir, qui vont se mettre en route. En tout cas, les propositions sont là.
Nous sommes présents à la maison du diocèse les mardis après-midi et jeudi après-midi.
Et bientôt, chers auditeurs, vous allez voir des affiches qui résument toutes ces propositions par écrit. Donc, vous pouvez reconsulter ce programme que vous venez d'entendre.
Voilà.
Merci à tous les deux d'être venus.
Merci Claudia, à bientôt.